dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza.
Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au menu ce soir, les effets des sanctions de la CEDEAO au Niger, pénurie et difficultés s'accumulent, tandis que le Premier ministre, nommé par le régime militaire, assure que le Niger est en mesure de surmonter ces sanctions. Toujours au Niger, les manifestations pour coup d'État ont stimulé la demande et la vente des drapeaux russes sur fond de sentiments anti-français. Au Burkina Faso, la radio Omega a saisi le Conseil d'État pour contester sa suspension annoncée par le gouvernement après l'interview d'un opposant au régime militaire au Niger. C'est notre fait marquant de la semaine. Inoussa Ouédraogo, président de la Société des éditeurs de la presse privée au Burkina Faso, sera avec nous dans cette édition. La parenté à plaisanterie, un levier ancien de paix entre groupes et ethniques au Burkina Faso. Nous verrons comment cette pratique fonctionne à Bobo Dioulasso. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook et sur YouTube. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. Après le coup d'état militaire au Niger, les effets des sanctions imposées par la CEDEAO pour exiger un retour à l'ordre constitutionnel commencent à se manifester dans plusieurs secteurs d'activité de la vie nationale. Des pénuries d'électricité aux problèmes de transport, en passant par les prix des produits de première nécessité, les populations subissent les répercussions, comme le décrit notre correspondant Abdelrazak Idrissa. Suivez son reportage.
À Gaya, ville nigérienne à la frontière avec le Bénin, transporteurs et commerçants sont désemparés. De centaines de camions gros porteurs sont stationnés depuis des jours sans pouvoir franchir la frontière. Certains chargements douaniers ont commencé à pourrir.
Je devais aller en Côte d'Ivoire avec plus de 350 sacs. Ils ont commencé à périr. Depuis hier, nous les avons déchargés pour pouvoir récupérer. Je n'ai pas encore eu 100 sacs. Tout est gâté. Je ne suis pas content. Imaginez, chaque camion, ce n'est pas moins de 15 millions de francs CFA. C'est un désastre.
Autre secteur affecté par les sanctions ouest-africaines, celui de l'énergie. Le Nigeria, qui fournit une bonne partie de son électricité aux régions ouest du Niger, a suspendu l'approvisionnement. Le rationnement de la production locale est loin de satisfaire les consommateurs, à l'image de ce tailleur.
Habituellement, mon atelier est ouvert de 8h à minuit. Là, depuis quelques jours, je n'ai l'électricité que 2 ou 3 heures par jour et je n'ai pas un groupe électrogène, ce qui fait que je perds beaucoup de clients. Je vous donne un exemple. Je faisais des recettes journalières de 50 000 francs CFA. Maintenant, à peine j'ai 10 000. Ce sont des moments vraiment pénibles que nous vivons.
Sur les marchés également, les prix des produits de première nécessité flambent chaque jour, témoigne cette restauratrice.
C'est avec vous que je suis allée acheter le sac de riz. Ils me l'ont vendu à 13 500 francs CFA, alors qu'il était à 11 000 francs CFA. Nous ne savons pas qui a augmenté le prix. Nous sommes dans le noir. Partout où tu pars acheter, on te retorque que les prix ont augmenté.
Les autorités militaires du pays sont conscientes de ces souffrances. Elles assurent que des dispositions sont en cours pour les juguler.
Le CNSP et le gouvernement de transition saluent la résilience et la solidarité du peuple nigérien qui fait preuve d'une grande dignité face à cette épreuve. Donc, ils comptent tirer toutes les leçons qui s'imposent et en sortir renforcés et grandir. Le CNSP et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, toutes les dispositions urgentes sont en train d'être prises pour atténuer au maximum l'impact des sanctions de la CEDEAO sur nos vaillantes populations.
Depuis l'annonce de ces sanctions, plusieurs voix à l'intérieur comme à l'extérieur du Niger se sont élevées pour demander leur levée et créer ainsi les conditions d'un dialogue entre la CEDEAO et la junte au pouvoir à Niamey. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Nous nous rendons à Niamey pour retrouver Abdelrazak Idrissa, notre correspondant sur place. Razak, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Razak, comment la population s'adapte à cette nouvelle réalité causée par ces sanctions?
Ben écoute, les populations, lorsque vous les interrogez sur les effets de ces sanctions, vous disent qu'elles ressentent ça assez durement, mais surtout assez précocement, parce que ça fait, on va dire, maintenant 3 semaines que ces sanctions ont été prises. Et tout de suite, on a vu la flambée des prix sur les marchés. Donc, il y a une certaine incompréhension au sein des populations sur cette flambée brusque des prix et des produits de première nécessité. Donc, elles le vivent assez durement, mais en même temps, elles disent, oui, c'est dur, mais c'était déjà dur certains le disent, puisque vous savez, c'est un des pays les plus pauvres et donc la cherté des produits de première nécessité, c'est toujours une réalité ici et donc elles essaient de s'adapter.
Oui, les organisations humanitaires sur le terrain signalent des difficultés accrues pour fournir une assistance adéquate aux populations vulnérables en raison justement de ces sanctions. Comment ces organisations envisagent de garantir un accès continu aux besoins essentiels pour ces populations touchées?
Alors, pour celles qui peuvent, enfin qui osent en tout cas parler au micro, ce qu'elles disent, c'est qu'elles vont essayer, pour s'adapter à cette nouvelle situation, de réorganiser leur intervention en priorisant certaines activités, les activités les plus nécessaires pour les populations bénéficiaires. Donc, oui, elles vont essayer de voir en fonction des priorités, en fonction de ce qui est urgent, elles vont essayer d'intervenir sur ces questions plutôt que d'aller dans tous les sens, on va dire, puisque vous savez, beaucoup de partenaires ont suspendu leur financement ou karma annulé, et donc elles sont obligées avec les financements, disons les fonds disponibles, elles envisagent de réorganiser, de réorienter certaines activités pour pouvoir toucher les populations vulnérables que sont notamment les femmes et les enfants. Et
Razak, le Premier ministre nommé par le régime militaire reconnaît la gravité de la situation, mais assure que le Niger est en mesure de surmonter ces sanctions. Le porte-parole de la junte l'a dit tout à l'heure dans votre reportage. Quelles sont les mesures annoncées ou prises par les nouvelles autorités pour atténuer justement cet impact sur la vie des Nigériens?
Alors là-dessus, il faut retenir que quelques jours seulement, hein, après la prise du pouvoir, les nouvelles autorités, le général Tchani Abdrahman notamment, a rencontré le patronat, le syndicat des commerçants pour leur expliquer qu'effectivement, du fait de cette nouvelle situation, des sanctions vont suivre et qu'eux, en tant que commerçants, en tant qu'opérateurs économiques, ils doivent pouvoir accompagner cette nouvelle dynamique dans laquelle le pays s'est engagé. Donc, il leur a demandé en tout cas de faire eux aussi preuve de patriotisme, comme l'indique le mouvement, le conseil qu'il a mis en place, faire preuve de patriotisme en n'allant pas tout de suite à augmenter les prix. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate. Et du coup, les dernières annonces qui ont été faites par le Premier ministre Maman Lamine Zen et le porte-parole, le colonel-major Abdraman, ils ont juste annoncé que des dispositions sont en voie pour que justement les populations, des mesures d'atténuation puissent être prises. Mais pour l'instant, on n'a pas vu encore ces mesures.
Pour l'instant. Merci Razak pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Niamey. Merci pour toutes ces précisions. Nous poursuivons cette discussion avec notre analyste Ahmedou Ould Abdallah, directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara, ancien fonctionnaire de l'ONU. Monsieur Ould Abdallah, bonsoir.
Au revoir, Michel.
Bonsoir.
La CEDEAO a brandi la menace d'une intervention armée la semaine dernière en activant sa force en attente. Une réunion militaire ouest-africaine soutient les 17 et 18 août à Accra, au Ghana, en vue d'évoquer une possible intervention armée au Niger. N'est-ce pas une équation aux multiples inconnus?
Absolument. Multiples inconnus, mais qui n'est pas une nouveauté. Souvenez-vous de l'intervention de la CEDEAO à travers le Sénégal en Gambie, quand le président Yahya Jammeh a refusé de quitter. Ça a été un succès. Souvenez-vous aussi, bien plus longtemps, d'intervention précisément des Nigérians, quelques troupes maliennes ou libériennes, et qui ont mené au résultat qu'on connaît. Ceci étant, l'intervention militaire ne doit être que l'ultime recours, et j'espère que de part et d'autre, après les sanctions qui continuent et qui bloquent tous les accès au Niger, en particulier à partir de Cotonou et du Nigeria, et le cas du Niger est différent du Mali et du Burkina Faso sur ce plan, et j'espère qu'il y aura un accord, une entente pour trouver une porte de sortie pour sauver les populations. Mais l'intervention militaire n'est pas exclue, bien qu'elle ne soit pas la solution idéale.
Mais les dégâts seront énormes dans le cas du Niger.
Absolument, elles sont déjà très dures, elles seront énormes, mais le Nigeria est un pays qui a connu beaucoup de coups d'État et qui ont trouvé une solution typiquement nigérienne, alternance tous les 10 ans, et alternance non seulement politique, mais alternance presque par région, nord, sud, est, et ce qui permet un minimum de stabilité et qui donne la crédibilité à ce qu'ils disent.
Les militaires au pouvoir à Niamey ont annoncé leur intention de poursuivre devant les tribunaux le président déchu Mohamed Bazoum pour trahison. La CEDEAO dénonce ce qu'elle appelle une nouvelle provocation de la junte. S'éloigne-t-on davantage d'une solution négociée, selon vous?
Personnellement, je pense que c'est peut-être le contraire. Le fait de poursuivre ou d'annoncer qu'on va poursuivre le président Mohamed Bazoum est peut-être une façon de négocier et qui ne doit pas être rejetée. C'est toujours mieux de négocier que de faire plus. Et je pense que c'est une voie qui ne doit pas être totalement rejeté, mais le poursuivre me semble peu convaincant. Je veux dire, les arguments qu'on va utiliser seront très peu convaincants, surtout qu'il est du système, et lui et son ancien protecteur et patron, le président Youssoufou Mamadou.
Quelles sont les concessions possibles pour éviter la guerre? Parce que quand on entre en guerre, ce n'est pas comme si on rentre dans un restaurant.
Tout à fait. Mais tout d'abord, je rappelle que vraiment, il est important, et ceci s'applique à beaucoup de pays, que partir du pouvoir, nous savons tous que c'est difficile. Mais le Cap-Vert l'a réussi, le Botswana l'a réussi. Mais pour certains présidents, c'est très difficile. Moi, je prends le cas de mon pays. Le président Aziz est parti, mais c'était difficile, il y a la nostalgie du pouvoir et vous savez la situation actuelle. Au Niger, apparemment, d'après les rumeurs, c'est aussi le cas. Le président Youssoufou Mamadou, et tout le monde l'a salué à son départ, mais apparemment, ou d'après les gens, je ne peux pas dire, il veut toujours rester et il y a beaucoup de rumeurs. Donc, il y a une solution qui est possible, c'est la discussion entre militaires nigériens qui sont actuellement au pouvoir et des pays tels que le Nigeria, le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire. Des pays concernés, des pays voisins et le Sénégal qui a une expérience avec la Gambie. Je pense qu'une solution vaut mieux qu'une crise armée dont la première victime sera le Niger.
Oui, en quelques secondes, l'implication des religieux dans cette affaire, est-ce que vous pensez que ça va dissuader cette euphorie de guerre qui s'annonce?
Alors, je pense que les religieux, tout le monde dans la région respecte et aime les religieux, mais De mon expérience, quand il y a beaucoup d'intermédiaires, ça aggrave la crise. Et il faut que ça soit la CEDEAO et que les religieux parlent à la CEDEAO. Mais quand il y a beaucoup d'intermédiaires, c'est très dangereux, de mon expérience. Donc, je préfère que ça soit la CEDEAO et que les militaires du Niger acceptent de parler avec la CEDEAO, mais que les deux anciens, les anciens présidents se mettent de côté. Il y a Aboubakar, qui a une grande expérience au Libéria, qui a une expérience de l'ancien président nigérien. Il peut aider et il doit aider. Il connaît la langue, il connaît la région et on doit l'aider et qu'on évite d'autres intermédiaires pour le moment, à mon avis.
Merci Ahmedou Ould Abdallah. Je dois souligner que le général Abdourahman Tchiani a justement annoncé que les autorités militaires à Niamey exploraient la voie diplomatique pour résoudre cette crise. Merci beaucoup pour votre expertise et au revoir, à très bientôt.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région. La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Nous restons au Niger où des partisans des putschistes qui ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet ont agité des drapeaux russes lors des manifestations de soutien à la junte au pouvoir. Une bonne affaire pour les tailleurs locaux qui notent une explosion de la demande pour ces drapeaux sur fond de sentiments anti-français. Mohamedou Oufa nous en dit plus.
Trois coupes de tissu de couleur blanche, bleu et rouge à assembler en bande horizontale. Le tailleur nigérien Yahaya Oumarou ne compte plus le nombre de drapeaux russes qu'il confectionne au quotidien, tant la demande est importante.
C'est un drapeau russe que je couds en ce moment. Ces derniers temps, des gens viennent dans mon atelier pour confectionner des drapeaux pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Le jour du rassemblement au stade national, par exemple, beaucoup de gens venaient coudre des drapeaux, surtout de Russie.
À Niamey, de nombreux commerçants et tailleurs confirment que les drapeaux russes sont très demandés depuis le coup d'état militaire ayant renversé le président Mohamed Bazoum.
Depuis quelques jours, je vends beaucoup de tissus aux couleurs de la Russie. Des commerçants et des gens achètent ces tissus. Je ne peux pas estimer combien de tissus ont été vendus ces derniers temps, mais quand un produit est facile à acheter, il devient difficile de s'approvisionner. Avant cette période, ce n'est que lors des campagnes électorales que les tissus étaient si populaires.
Comme au Mali et au Burkina Faso, pays également dirigé par des putschistes, les drapeaux russes fleurissent désormais lors des manifestations de soutien aux militaires. Un message clair qu'entendent envoyer les manifestants.
Je suis allé aux manifestations et j'étais avec un drapeau russe. J'aime la Russie parce que la plupart des pays africains sont avec les Russes. Je pense aussi qu'ils ont une solution.
Cette affection pour la Russie, disent certains experts, est en fait le reflet d'un sentiment anti-français qui n'a cessé de croître au Sahel et dans d'autres pays africains. Les autorités françaises, quant à elles, pensent qu'il s'agit d'une manipulation par la Russie qui, même si elle n'est pas à l'origine du coup d'État au Niger, pourrait en profiter pour conforter sa place sur le continent, notamment via la milice Wagner.
Lundi dernier, le gouvernement du Burkina Faso a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre Radio Omega, l'une des plus écoutées du pays, après la diffusion d'un entretien avec le porte-parole d'un mouvement récemment créé au Niger qui souhaite rétablir le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État le 26 juillet. Omega a saisi le Conseil d'État du Burkina Faso pour contester sa suspension. C'est notre fait marquant de la semaine. Inoussa Ouédraogo, président de la Société des éditeurs de la presse privée au Burkina Faso, se trouve à Ouagadougou. Il est avec nous en ligne pour en parler. Inoussa, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, au regard des textes, le gouvernement n'a pas le droit de suspendre une radio. Cette prérogative relève du Conseil supérieur de la communication, l'organe de régulation des médias au Burkina Faso, selon le groupe Omega. Votre commentaire?
Absolument, cette suspension de Radio Omega est à tout point de vue illégale. Le gouvernement n'a aucune compétence pour connaître du respect ou non des règles d'éthique et de déontologie dans un média. Cela relève des attributions du CSE. Et cette institution s'était déjà du reste saisie de la question. Et en agissant ainsi, le gouvernement contribue à mettre en péril le droit du public à l'information et sape la crédibilité d'une institution comme le CSE. C'est la constitution du Burkina Faso qui est ainsi violée. Et pourtant, le président Ibrahim Traoré a juré de défendre la Constitution et de la protéger. Nous sommes simplement donc en face d'un parjure. En tout état de cause, nous appelons le gouvernement à revenir sur sa décision, à laisser le CSE faire son travail de régulateur, et parce qu'à vouloir contrôler tout le pouvoir, à vouloir imposer sa volonté au détriment des règles du vivre ensemble, nos autorités s'exposent à des abus, à des dérives inacceptables et même à même de conduire le pays vers des destinations périlleuses.
Et nous ça, le gouvernement burkinabé a justifié sa décision, arguant que ce mouvement militaire, que ce mouvement milite clairement pour la violence et la guerre contre le peuple souverain du Niger. Le journaliste qui a réalisé l'interview en cause a été convoqué à la direction de la Sûreté de l'État pour y être auditionné. Est-ce une menace à la liberté de la presse, selon vous? Avez-vous des nouvelles de ce journaliste qui a été convoqué?
Oui, vous savez, depuis l'intrusion des militaires dans l'arène politique, les journalistes ont été classés en deux grands groupes. Le groupe des journalistes patriotes et le groupe de journalistes qu'ils appellent apatrides. Les premiers sont des soutiens des militaires au pouvoir. On veut qu'ils chantent leur louange, qu'ils applaudissent toutes les actions. Et les seconds sont ceux qui essaient de faire leur travail de façon professionnelle, en prenant de la distance, en ayant un peu d'esprit critique, en donnant la parole à toutes les parties. Malheureusement, les premiers sont applaudis et les seconds sont insultés, humiliés, calomniés, traités de tous les noms d'oiseaux, intimidés, harcelés et même menacés. Et c'est ce que notre confrère de Omega vit en ce moment. Pourtant, la liberté de presse, ce n'est pas un cadeau fait aux journalistes. Ce n'est pas non plus une faveur accordée à qui que ce soit. C'est un droit constitutionnel. Et tant que la Constitution est en vigueur, les journalistes feront leur travail conformément aux dispositions de la loi. C'est pourquoi nous invitons justement le pouvoir à un peu plus de retenue et à lever cette sanction inutiles, qui sont aussi irrégulières et illégales. Et donc nous apportons tous nos encouragements à nos confrères de Omega et à nos confrères des autres médias qui vivent en ce moment beaucoup de menaces, beaucoup d'intimidations. Et justement, la convocation de Omega à la Sûreté nationale obéit simplement à cette forme d'intimidation et de menaces sur les journalistes et la liberté.
Il nous sera en quelques secondes, que faire pour apaiser les tensions créées par cette suspension de la radio Omega et cette situation constelle une autocensure d'autres médias burkinabés. En 30 secondes.
Ben, il faut simplement lever cette sanction que nous jugeons illégale et il faut aussi que les démocrates sincères, les défenseurs des droits humains et les journalistes dénoncent ces abus-là et se lèvent, se mettent debout afin qu'ensemble nous continuions donc à lutter pour plus de liberté, pour plus de justice parce que l'injustice ne peut nous conduire à beaucoup de choses. On voit notamment la montée du discours de la haine, les injures publiques, les messages médiatiques, les menaces menaces en tout genre dont sont victimes les journalistes, nous invitons nos autorités à être humbles, modestes, parce que quand on gère une parcelle du pouvoir, il faut tenir compte des plus faibles cas.
Merci, Noussa Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes président de la Société des éditeurs de la presse privée au Burkina Faso. La parenté à plaisanterie demeure une valeur profondément enracinée au Burkina Faso. Elle symbolise un pacte entre différentes communautés ethniques qui s'adonnent à des taquineries et maintiennent ainsi un principe de non-conflit. Cette pratique revêt une grande importance en tant qu'outil majeur pour cultiver la paix. Reportage à Bobo Dioulasso, Dalido Ouedraogo.
Bobo Dioulasso est une ville cosmopolite du Burkina Faso où la parenté à plaisanterie est très forte. Elle consiste à se taquiner entre ethnies ou communautés. La règle est qu'on ne doit pas se fâcher face à ces moqueries et qui ont pour but unique de raffermir les liens entre communautés. Pour parler de cette parenté, nous nous sommes rendus au Centre culturel Jean-Paul II pour la paix et le développement. Là, c'est l'archevêque émérite Anselme Titiama Sanou qui nous reçoit. Homme de Dieu et de culture, il a aussi écrit un livre sur cette parenté à plaisanterie depuis 1967. Il nous explique que c'est né à la suite d'un génocide entre des peuples.
La plaisanterie, c'est une base d'alliance, de traité, de contrat que ses ancêtres ont dit désormais pour ce qui vient de mon sang, désormais pour ce qui vient de ton sang. On n'ira pas au conflit extrême.
Dans un autre quartier, au secteur 3, nous retrouvons Blaise Sanou, traditionnaliste, gardien de la tradition Bobo et médiateur des conflits sociaux. Pour lui, la parenté à plaisanterie peut aider à prévenir un conflit intercommunautaire et religieux pendant ces temps de crise.
Aujourd'hui, ce conflit-là, honnêtement, la parenté à plaisanterie peut gérer ça. Si par exemple les Boubou et les Peuls s'entendent, si les Mossi et les Samo n'ont pas de problème, si les Gourousi et les Bissa n'ont pas de problème, le problème est où? C'est aujourd'hui.
Il y a des situations explosives que cette pratique traditionnelle a réglées, nous confie Anselme Titiama Sanou.
Je sais que dans certaines situations, on a eu recours à la tradition pour résoudre. Des problèmes insolubles.
La parenté à plaisanterie est tellement sacrée que toute transgression doit être immédiatement réparée. Blaise Sanou nous cite l'exemple des Bobos et Peuls.
Si vraiment tu arrives à porter la main sur un Peul en tant que Bobo, si tu reconnais après que tu as fauté, qu'est-ce que tu dois faire? Cherche un coq blanc. Tu vas remettre au pôle là en disant ah, je présente mes excuses. Et puis lui, il est obligé de prendre et pardonner.
Dans la société burkinabè, presque tous y ont recours pour gérer des différends sociaux. Illustration dans le grand marché où des milliers de personnes se rencontrent.
La parenté à plaisanterie est capitale. Ça évite beaucoup de palabres entre nous.
Au regard de la situation que vit le Burkina Faso, beaucoup pensent aujourd'hui que le cousinage à plaisanterie, également connu sous le nom d'alliance à plaisanterie, doit être institutionnalisé. Alidou Ouedraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. Merci à tous nos correspondants. Eric Manirakis a été avec vous au micro. Michel Claire-Joseph et Trésor Matondo ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète. Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.